Salon du livre, d'expression populaire et de critique sociale sur Radio PFM. Entretien avec Antonin Richard. Antonin Richard, salut.
Salut.
Tu es l'auteur de ce livre « Ce matin, la mer est calme », journal d'un marin sauveteur en Méditerranée. C'est sorti aux éditions Les Étacs. Alors c'est brièvement expliqué au début du livre, mais est-ce que tu peux nous raconter et raconter aux auditeurs, aux auditrices, comment quelqu'un qui a grandi à Roubaix, donc a priori assez loin de la mer, peut se retrouver à piloter des canots et tenter de sauver des vies en pleine mer Méditerranée?
Eh ben, c'est la conjugaison de pas mal de choses, mais ça a commencé par mon engagement à 17 ans avec Greenpeace. J'ai rejoint Greenpeace à 17 ans au groupe local de Lille et petit à petit, on m'a intégré et on m'a entraîné à faire du bateau, du canot rapide. Et en fait, en 2016, il se trouve que ils ont eu un projet de sauvetage en mer avec Médecins Sans Frontières au moment où il y avait ce qu'on a appelé la crise des réfugiés après, plus d'un million de personnes qui sont passées entre la Turquie et la Grèce entre 2015 et 2016. Et du coup, dans ce cadre-là, ils m'ont proposé d'y aller en tant que volontaire, équipier, et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, tout simplement.
Alors quelque chose qu'on apprend, enfin en tout cas que j'ai appris en lisant ce livre, c'est que ces opérations de sauvetage, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Hein. C'est pas simplement lancer une corde à un autre bateau. Déjà, les migrants naviguent dans des embarcations très précaires, des rubber boats, donc des bateaux pneumatiques. Et puis il faut faire très attention à ne pas les renverser. Il faut faire aussi attention aux réactions des passagers, aux mouvements de panique. Donc c'est tout un processus qui fait qu'une opération se passe bien ou pas.
Ouais. En fait, on est ce qu'on appelle maintenant, on appelle ça du sauvetage de masse. Donc, on n'est déjà pas dans une situation, on va dire, normale, dans le sens où ce serait un voilier avec des gens qui naviguent, avec du matériel pour communiquer, pour flotter au cas où ils aient un problème, avec un plan de navigation précis, etc. On est sur des embarcations qui sont pas faites pour prendre la mer, avec énormément de personnes dessus. Elles sont surchargées, elles sont en mauvais état. Les personnes n'ont pas forcément d'expérience pour pouvoir prendre la mer et ils ont aucun équipement de sécurité qui leur permette de survivre en cas d'avarie, en cas de naufrage, etc. Donc oui, nous, quand on intervient, c'est quelque chose de délicat. Et ça demande, effectivement, tu parles des foules, etc. Ça demande un contrôle sur les personnes qu'on sauve parce que, en fait, nous, on apporte une porte de sortie là où il n'y en a pas. Et en fait, il faut s'imaginer dans une pièce sans porte de sortie, en fait, on n'angoisse pas parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais à partir du moment où il y a une issue, tout le monde veut se précipiter vers elle. Et en profiter. Et donc l'idée, c'est de poser un cadre qui permette que les gens ne paniquent pas pendant les opérations. Et ça, c'est sûr, c'est une des clés des opérations qu'on fait, c'est de créer un lien de confiance entre les personnes qu'on sauve et nous, et de permettre à ce qu'elles soient bien conscientes des enjeux qu'il y a et qu'on garde le contrôle sur la situation.
Éviter aussi que les gens sautent à la mer ou tombent à la mer, hein, parce que c'est quand même il y a des forts risques de noyade aussi.
Ouais, bah c'est la route migratoire la plus meurtrière, je crois que c'est au monde, je ne peux pas dire de bêtises. Et c'est assez compliqué parce que pour comptabiliser, il faut pouvoir voir, et comme c'est une zone qui est quand même assez reculée des terres, etc. Et où la présence d'ONG n'est pas si facile que ça. C'est aussi pas évident d'avoir une idée réelle du nombre de morts et du nombre de personnes qui meurent, mais c'est vrai que C'est aujourd'hui une des routes migratoires les plus meurtrières au monde.
On observe Alpha faire une approche. Les passagers sont très agités. Il y a des enfants, des vieux. Le fond du canot est rempli d'eau, les gens assis au milieu sont mouillés. La tension est palpable. Kevin, le coordinateur, tente de joindre les gardes-côtes grecs par radio pour avoir l'autorisation de transborder les personnes les plus vulnérables. Cet Écossais trapu ne peut cacher son anxiété. Entre deux appels radio, les cigarettes sur lesquelles il tire se consument en un clin d'œil. La réponse n'arrive pas et l'agitation monte. Rami est médiateur culturel sur Alpha. Il tente de rassurer les familles en arabe. Mais d'un coup, c'est l'explosion. Des cris de panique fusent de l'arrière du bateau pneumatique. Les gens lèvent une petite masse grise en gueulant « Au secours !» C'est un enfant emmitouflé, de l'eau ruisselle sur ses vêtements, il est trempé. Même si tout va très vite, je regarde son visage blanc, inanimé, avec les lèvres bleues. Sophie, l'infirmière sur Alpha, le récupère et commence immédiatement un massage cardiaque. Les gens crient et pleurent. Un homme, nous saurons plus tard qu'il s'agit de l'oncle du petit, saute sur le canot. Il est dans un état second. Il se met à se taper la tête sur des bouteilles d'oxygène. Rami est obligé de le saisir fermement, en gueulant, pour essayer de le raisonner. Les deux hommes sont face contre face. Rami pleure, lui aussi. Kevin prend la barre d'Alpha et met plein gaz vers la terre. Nous restons seuls avec l'embarcation avant de voir revenir le canot sans Sophie, l'enfant et son oncle. La panique reprend. Alpha s'approche, mais au contact du canot pneumatique des Syriens, sa proue en aluminium perfore un boudin. Déséquilibrés et affolés, les gens basculent vers l'eau, naufrage, la mer est froide, personne n'a de gilet de sauvetage. L'adrénaline monte, et dans tout ce chaos, je m'arrête sur Yann, complètement calme. Il observe, balayant des yeux l'ensemble de la scène. À ce moment, il est soudain comme extérieur à tout ce qui se passe. Et soudain, il me regarde et me lance. « T'es prêt ?» Les femmes et les enfants d'abord. Mais s'il y a besoin, tu retires un homme. Allez, on y va. Je suis son doigt me pointant les personnes que je dois évacuer en premier. De son côté, Samantha barre physiquement la route à ceux qui voudraient monter d'eux-mêmes sur notre bateau. On sort les naufragés au milieu des plaintes. Je remarque une gamine couchée sous des hommes. Elle a le visage à l'horizontale, plongée à moitié dans l'eau. Son expression est figée, elle ne crie pas. Je saisis son bras, mais je ne peux pas la sortir. Elle est immobilisée par le poids des hommes au-dessus. J'y mets toute ma force, Yann me voit, récupère les hommes, qui ne réalisent pas qu'ils sont par-dessus cette fille. On fait de la place et j'arrive à la débloquer. Le bateau est rapidement rempli. Yann prend régulièrement quelques secondes pour mieux appréhender la situation. Il me lance. Il nous faut quelqu'un en plus pour nous aider. Avant de saisir un homme qu'on venait de sortir. You help us! Nous sommes maintenant trois à sortir les gens. Le dernier à être récupéré est un vieux. Transi de froid, il suffoque et ses yeux se révulsent. J'interpelle Yann, il n'a pas l'air bien. Il me répond, lui, il va nous claquer entre les mains. Kevin nous annonce que nous allons transférer les gens sur un navire de garde-côte norvégien. Dans toute cette pagaille, même si ça me perturbe, je ne cherche pas trop à comprendre. Nos bateaux sont saturés, les rescapés sont trempés et la température est proche de zéro. C'est un navire en mission pour Frontex, assez gros. Les officiers à bord se montrent cordiaux. Ils font rentrer les plus vulnérables à l'intérieur avec les enfants. Le vieux Syrien n'est pas mort. Il quitte en dernier notre canot. Le bâtiment norvégien met ensuite cap vers le port de Molivos. Nous remorquons l'épave vers une plage pour éviter qu'elle ne dérive. À peine approchons-nous la côte que l'on aperçoit des pick-up filer dans notre direction. Ça, ce sont les corbeaux, précise Yann. Quelques hommes attendent que le radeau s'échoue sur le sable pour s'en emparer. Le moteur est récupéré, probablement pour être revendu. Le contreplaqué du canot est découpé et chargé. Tout ceci a à peine duré quelques minutes. Lorsque nous nous éloignons, il ne reste plus que quelques débris du rafio éventré. Les corbeaux, eux, se sont déjà envolés dans un nuage de poussière. L'enfant est mort. Je ne sais plus comment nous l'apprenons. Il a été déclaré sans vie au port de Scala Sicaminea. La journée se poursuit avec l'accompagnement d'autres embarcations qui arrivent sans encombre. Plus tard, on entend par radio qu'une femme est morte dans un canot pendant la traversée.
«
Alors, ce livre raconte ces sauvetages avec les joies que les sauvetages peuvent procurer. Hein. C'est des gens qui arrivent vers leur objectif après un long et ô combien pénible voyage, après avoir fui des guerres, la pauvreté. Il y a cette joie, mais il y a aussi, comme tu le dis, les tragédies, les morts, les corps noyés que tu as côtoyés, que tu as dû porter. À un moment, il y a même ce passage où tu t'interroges sur l'utilité de ramener des corps sans vie sur Terre. Tu parles aussi dans ce livre de ces traumatismes-là.
Ouais, bah c'est alors c'est quelque chose. Enfin, en tout cas, oui, c'est effectivement on est nous en tant qu'équipe de sauvetage, on n'est pas. Enfin, l'idée forcément quand on intervient, c'est que nous, c'est qu'on garde la situation sous contrôle et que pendant nos opérations, personne ne meurt. Et c'est l'objectif premier, c'est de ramener tout le monde à bord des navires. Ce qui se passe, c'est que les choses sur lesquelles on a le contrôle, elles sont extrêmement. Il y en a extrêmement peu. On n'a pas de contrôle sur grand-chose. Et notamment, si on n'est pas là, on ne peut pas avoir de contrôle sur ce qui se passe. Et bien souvent, en fait, l'absence de bateaux de sauvetage dans la zone fait que les embarcations coulent ou les gens tombent à l'eau et que, en fait, on n'est pas là pour pouvoir les récupérer. Et du coup, effectivement, il se trouve que parfois, on trouve des gens qui, finalement, ont déjà eu voilà ont déjà eu leur naufrage etc. et sont déjà mortes et dans ces cas-là ouais ça pose plein de questions mais effectivement du coup on peut être confronté à des cadavres à des gens qui sont morts dans l'eau depuis longtemps c'est quelque chose qui peut arriver ouais c'est quelque chose qui peut arriver et après effectivement alors maintenant la question se pose moins mais à un moment il y avait cette idée de ramener en tout cas les corps qu'on récupérait, en tout cas de les monter à bord, ne serait-ce pour un souci de pouvoir compter les morts. C'est quelque chose d'important aussi pour essayer de changer la situation, de la visibiliser. Et après, il y avait aussi un aspect de dignité, c'est-à-dire que ramener les gens à terre et pouvoir les enterrer, c'était aussi une possibilité pour qu'ils puissent être identifiés, pour que les familles des disparus puissent éventuellement retrouver leurs traces, des signes distinctifs, etc., qui pourraient être gardés à terre. Et tout ça, donc voilà, pour faire un lien, aussi parce que c'est aussi quelque chose d'important, le poids de la disparition, etc. Et voilà, et pour les familles, pouvoir savoir que leur proche est mort, c'est aussi pouvoir commencer à faire le deuil de ces personnes.
Oui, je crois qu'il y a une estimation de 20 000 morts dans la Méditerranée depuis 2014. Il me semble, je crois que c'est ça les chiffres. Alors c'est forcément une estimation.
On peut supposer qu'il y en a bien plus, parce que les 20 000, c'est ceux qui ont été comptabilisés, donc c'est les corps qu'on retrouve, etc. Mais il y a aussi probablement énormément de gens qui disparaissent en mer et qui refont jamais surface et qu'on ne peut pas compter. Donc on parle de 20 000 au moins.
Dans l'avion vers Bruxelles, je survole la Méditerranée, et comme cette fille que j'avais vue dans l'avion entre Lesbos et Athènes, je me mets à chialer en regardant à travers le hublot. À Courtrai, Julien est là, j'achète deux jupilles pour le trajet. Il sait ce que ça fait d'être catapulté après ce genre de mission, et ne me pose pas trop de questions. On atterrit place du marché, à Ouazem. Sans savoir où je vais dormir, je retrouve les copains au café, presque comme si de rien n'était. On m'avait prévenu que les images des événements traumatisants risquaient de revenir. Effectivement, comme la télé d'un kebab diffusant en boucle les reportages d'une chaîne d'infos continue, mon cerveau distille régulièrement les flashbacks du naufrage de nuit, puis ce décor en charpie en train de se dissoudre dans le fond du rubber boat. Loin des clichés de films américains où le héros se réveille en sueur et en sursaut, ces images apparaissent discrètement. Elles s'imposent en arrière-plan, sans prévenir dans des situations quotidiennes. Quand je discute avec des potes au bar, quand je lis un bouquin, quand je mange, quand je marche dans la rue, quand je fais l'amour. Plutôt que de grands coups de massue, c'est une aiguille qui pique un peu, mais souvent, qui gêne plus qu'elle ne blesse. Je m'habitue à changer de chaîne quand ça apparaît. Un copain médecin qui s'intéresse au stress post-traumatique m'explique. Suite à des expériences choquantes, ton cerveau s'abîme. Comme tu pourrais te casser un pied ou t'ouvrir une plaie. Le cerveau a pris un coup et comme pour les autres organes, il va lui falloir du temps pour se réparer. En attendant, Il envoie des signaux pour dire qu'il va mal. Les images dans la tête, les cauchemars, du stress et plein d'autres symptômes sont des signaux. Selon les pays, on considère qu'il faut entre un mois et demi et trois mois pour se remettre d'une expérience traumatisante. Si les troubles persistent au-delà de trois mois, le stress post-traumatique s'est installé et il faut te faire soigner. Du coup, je décide de vivre avec ces trucs, d'attendre trois mois et puis on verra.
Tu as parlé de la nécessaire visibilisation. Il y a cette question, un moment que tu te poses, que d'autres se posent aussi. Est-ce que le sauvetage, c'est un acte humanitaire, un devoir de marin ou un acte politique? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce débat, cette discussion que tu as pu avoir avec d'autres sauveteurs
Je pense que déjà, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est un peu de tout ça. Mais je crois que ce qui est intéressant de se dire, c'est que de toute façon, c'est quelque chose, c'est assister des personnes en danger. Et ça, c'est quelque chose, a priori, que ce soit sur terre ou en mer. J'aime pas trop dire que c'est un devoir de marin, parce que je pense que si quelqu'un est en train de, dans une situation difficile à terre, ou en mer, ou n'importe où, en fait, c'est du devoir des personnes qui sont les plus proches d'intervenir et d'essayer de les sauver. Et je crois que c'est aussi placer la vie des gens comme quelque chose de très important, et qui qu'il soit. Et je crois qu'aujourd'hui le sort de ces gens, par exemple, importe peu certaines personnes. Aujourd'hui, il y a toute une frange politique qui va de l'extrême droite, mais pas que, à d'autres gens qui disent que voilà, qui assument le fait que des gens puissent mourir en mer et qui finalement mettent assez peu de valeur, qu'elle soit symbolique ou autre, sur la vie des gens. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important, c'est avoir de l'estime pour la vie des gens, qui qu'ils soient, et même des gens qui, voilà, qui sont pas forcément proches de nous, et voilà, avec qui on, ouais, qui, pour qui c'est pas, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas forcément des proches, et c'est souvent des inconnus et tout ça, mais je crois que déjà, c'est avoir cette haute estime là, que qui que ce soit n'a pas à mourir en mer pour quelque raison que ce soit. Et je crois aussi que c'est politique, du coup, parce que c'est remettre au centre de, voilà, au centre du débat, le fait que on parle de personnes, et que quand on prend des décisions politiques qui mènent à rendre plus difficile le voyage des gens, à bloquer les gens dans des pays où ils se font torturer, etc., et ben ça a des conséquences, et ça a des conséquences sur leur vie. Et du coup, je crois que c'est important de faire ce lien avec la politique, parce que oui, c'est politique de dire, de refuser de laisser les gens dans cette situation-là, et que certes, on n'apporte peut-être pas une solution au fond du problème, etc. Et évidemment, il y a d'autres choses à faire et qu'il y a d'autres actions à mener et tout ça. Mais je crois aussi, en refusant cette espèce de fatalité-là, en se dressant contre l'acceptation de la mort, et ben, on porte quelque chose aussi de très politique.
À l'hôtel, j'ai droit à une introduction au contexte humanitaire de Lesbos. Le coordinateur médical de MSF est franc. Depuis que l'attention médiatique s'est emparée de Lesbos, la côte où se concentrent les arrivées est un véritable cirque humanitaire. On dénombre plus d'une centaine d'acteurs différents, de très jeunes ONG sans expérience, d'autres plus grosses, énormément de volontaires affluent et non pas souvent de formation adéquate. En gros, il y a trois catégories. Les poids lourds avec beaucoup de moyens mais qui ne savent pas toujours comment les utiliser efficacement, les petites ONG et associations en recherche de visibilité médiatique qui ont beaucoup de bénévoles mais qui n'ont pas les ressources nécessaires. Et puis, il y a les volontaires indépendants et des activistes anarchistes rassemblés autour du camp autogéré de Platanos. Étonnamment, ils fonctionnent plutôt bien. Sur le terrain, ces paroles ne tardent pas à se concrétiser. S'il y a relativement peu de bateaux d'ONG en mer, entre 3 et 6 selon les jours, les équipes à terre sont nombreuses. En suivant les embarcations d'exilés jusqu'à la plage, on assiste parfois à une ruée. Comme dans une petite course, les différents véhicules floqués arrivent en trombe et un mélange de caméras, de personnels médicaux et de volontaires déboule dans un étrange balai. Tout le monde veut aider, mais certains sont aussi là pour se faire voir. Le décalage est grand entre les gens qui débarquent, souvent en état de choc, et l'agglutinement pressé des Européens autour d'eux. Le soir, je fais la connaissance de Salima et Rami. Ils sont médiateurs culturels pour MSF, un poste de traducteur avec un volet social. Le couple est syrien, Damasène. Ils ont soutenu la révolution. Ils sont restés jusqu'à ce que les affrontements touchent la capitale. Avec leurs deux enfants, ils ont d'abord rejoint le Liban, puis la France, où ils se sont retrouvés dans une petite maison à la campagne. Les deux s'expriment dans un français impeccable. Pour autant, ils n'ont pas supporté le changement et cette installation forcée. Salima est nostalgique de sa vie à Damas. Elle en parle avec des lumières dans les yeux. Elle raconte sa vie avant la guerre, lorsqu'avec ses amis, ils se retrouvaient chaque week-end à danser et à chanter. Mais hors de question de dire que c'était mieux avant sous Bachar. Ils le haïssent et ne regrettent rien de la révolution. Pour eux, venir à la frontière entre la Turquie et l'Europe accomplir ce boulot, c'est pouvoir continuer à aider un peu leur peuple.
Tu parlais de choix politiques, c'est ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on lit à travers ton récit, le récit de ton expérience, c'est l'évolution de ces choix politiques. En 2016, à Lesbos, il y a beaucoup d'ONG qui sont là pour venir en secours aux réfugiés syriens, puis le relais est pris par les États, les gardes-côtes. Au large de la Libye, c'est encore différent. On voit souvent que les ONG ont une marge de manœuvre assez étroite entre les différents États, donc Union européenne, Turquie, Union européenne, Libye. Il y a aussi une militarisation de la gestion de cette crise avec Frontex. Au final, il y a un choix politique qui a été fait, ce que tu décris comme un choix démagogique, xénophobe. Et le choix, c'est de construire un mur au milieu de la mer.
Je crois que c'est peut-être pire que ça, parce que le parallèle avec le mur, il est intéressant, mais en même temps, pour moi, un mur, c'est presque moins violent qu'une mer. Et je crois que de décider de rendre la mer une barrière pour les gens qui essaient de la traverser, c'est infiniment plus violent que de dresser un mur encore. Je crois que c'est vraiment les gens qui traversent, on ne sait pas si quand ils meurent, on ne sait pas, ils disparaissent au milieu de nulle part. Et pour moi, c'est finalement, je trouve que la violence symbolique de la mer, elle est même bien plus forte que celle du mur. Et sur cette question de la politique européenne, je crois clairement ce qui s'est passé, c'est que on est passé d'une esquisse de réponse solidaire en 2015 où il y a eu des élans de solidarité, où il y a eu des politiques institutionnelles qui sont élevées pour dire qu'il fallait mettre en place des circuits pour pouvoir accueillir les gens qui fuient la guerre, etc. Et qu'en fait, en 2016, il y a eu ce passage à une réponse répressive en disant, en fait, on peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Voilà, les gens n'auraient pas de légitimité à rejoindre l'Europe et que du coup, on fait tout pour les bloquer. Et donc, tout pour les bloquer, ça a été du côté de la frontière gréco-turque, ça a été une ultra-militarisation, une présence accrue des gardes-côtes turcs, mais aussi soutenus par l'Europe, de Frontex, des gardes-côtes grecs. Pour vraiment bloquer le passage d'une façon physique, alors qu'à l'inverse en Libye, ça a été un retrait progressif, mais finalement presque total de flotte en fait militaire européenne, de finalement des institutions européennes qui étaient autrefois présentes au large de la Libye et qui sont maintenant qui sont maintenant retirés et donc les bateaux européens et des institutions européennes ne sauvent plus les gens Et à la place, on a remplacé ça par de la surveillance aérienne, donc avec des avions et des drones, mais qui, eux, ne peuvent pas intervenir s'ils sont témoins de naufrage. Ou en tout cas, ne peuvent pas ramener les gens dans un port sûr qui serait en Europe.
L'objet d'une dépêche lapidaire dans la presse. 17 personnes ont été retrouvées sans vie dans des canots de migrants par des ONG en opération de sauvetage et d'une violence extrême. Sans même penser à l'agonie qui a dû mener ces jeunes femmes et hommes à crever au fond d'un canot pneumatique rempli d'essence et d'eau de mer au beau milieu de la Méditerranée. Ce qui instaure la fermeture des frontières et organise la politique européenne de gestion des flux migratoires ne les voit pas, ces morts. Ce ne sont que des chiffres. Tout au plus, il les déplore, parfois, rejetant la faute sur les passeurs. Comme deux complices devant un juge, il renvoie la balle sur ceux qui font les basses besognes. Pourtant, si des réseaux de trafic d'êtres humains s'engraissent comme des porcs grâce à une traite négrière moderne, les politiciens européens, eux, se font élire à coups de slogans xénophobes et de mesures anti-immigration. L'avènement de Frontex et de ses deux mandats, protéger les frontières et sauver des vies, n'est qu'une autre forme du cynisme de ces pompiers pyromanes. J'ai perdu la notion des jours. Ce matin, la mer est calme. C'est un miroir que seul notre étrave vient troubler. Le ciel est voilé, mais la lumière est forte. L'atmosphère d'un gris métallique. Nous sommes en route vers notre dernier sauvetage avant de remonter vers le nord. Je suis tendue, ma tête se remplit de tous les « et si » que je peux imaginer après les jours que nous avons vécus. Nous mettons les canots rapides à l'eau. Le rubber est normal. À notre approche, la tension est palpable. Les gens nous demandent si nous sommes de la police. On dégaine le speech habituel. Nous sommes ici pour vous aider, nous sommes allemands. Et ça fonctionne à merveille. Le sauvetage est assuré autant par notre équipe que par les personnes à bord du rubber. Nos invités sont pleins de vie et sans le savoir, ils rallument notre motivation. Dans l'équipage, certains disent que ce n'est pas nous qui les avons sauvés, mais eux qui nous sauvent.
Extrait de « Ce matin, la mer est calme », journal d'un marin sauveteur en Méditerranée. Entretien avec son auteur, Antonin Richard. Il y a d'autres acteurs aussi qu'on découvre peut-être dans ton récit. Ce sont les corbeaux et puis c'est... je sais pas si c'est des pirates, mais il y a toujours cette menace de bateaux libyens qui viennent causer du tort, voire mettre la vie des gens en danger.
Ouais, alors non, ce ne sont pas des pirates, et en fait il y a un système de traite d'êtres humains en Libye. Où des milices, en fait, c'est des milices qui arrêtent des migrants et qui les torturent pour pouvoir demander des rançons au village, enfin, dans les familles qui sont restées au village. Et donc, on envoie des vidéos de torture, etc., aux proches pour qu'ils financent la libération des personnes qui migrent. Et donc ça, déjà, il y a un espèce de système paramilitaire composé de milices, etc., qui font une industrie de la torture et du trafic d'êtres humains. Et donc ces gens-là sont parfois présents. En fait, une fois qu'ils ont obtenu la rançon, bien souvent, ils envoient les gens. Ils mettent les gens sur des bateaux pour qu'ils traversent vers l'Europe. Donc ça, c'est une des choses. Et après, il y a une présence des gardes-côtes libyens qui sont financés et formés par l'Europe pour intercepter les bateaux qui fuient la Libye et ramener les gens en Libye et les mettre dans des centres de détention. Mais du coup, on est bien dans quelque chose qui est identifiable avec des gens qui sont des... Voilà, soit des milices, soit des institutions qui sont payées et formées par l'Europe pour faire de la répression. Voilà. Et sinon, en Grèce, à un moment, effectivement, il y avait des gens qui récupéraient les débris des bateaux, les moteurs qui traînaient, etc. Voilà, mais c'était autre chose, je pense.
Alors aujourd'hui, parce que ton récit s'arrête récemment, hein, je crois que ça parle aussi de l'année 2020. Aujourd'hui, où en sont les opérations de sauvetage en mer? Est-ce qu'elles sont encore possibles? Parce que le récit s'arrête aussi sur les problèmes administratifs, hein, des différents bateaux.
Ouais. Alors aujourd'hui, de ce que j'en sais, en fait les ONG envoient toujours des bateaux en mer. Avec la crise du Covid, ça a compliqué leurs actions parce que en fait donc les autorités italiennes qui sont le plus souvent les ports de débarquement de ces bateaux-là forcent les bateaux à effectuer 14 jours de quarantaine. Donc force les équipages et les bateaux à être immobilisés pendant 14 jours de quatorzaine. Et à côté de ça, donc ça fait à chaque fois perdre énormément de temps au bateau d'immobilisation. Et à la fois il y a ce que tu disais un petit peu, mais il y a une pression en fait. Aujourd'hui le harcèlement, avant d'être politique, il est administratif et réglementaire. Et donc en fait aujourd'hui les autorités italiennes, via les gardes-côtes, mettent une pression énorme sur les bateaux de sauvetage indépendants en termes de sécurité, d'aménagement du navire, etc. Et du coup, il y a des contrôles à répétition qui sont effectués par les gardes-côtes afin de trouver des défaillances qui justifieraient le blocage du navire. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est vraiment dans un voilà, finalement, c'est un outil qui est à la base administratif et sécuritaire, donc pour la sécurité des navires, qui a été détourné pour pouvoir empêcher les bateaux d'opérer ou en tout cas les ralentir. Donc voilà, la situation est compliquée, mais il y a toujours des sauvetages, il y a toujours des bateaux qui partent, voilà, mais plus ou moins longtemps et qui sont bloqués plus ou moins longtemps, etc.
Il y a d'autres mers où finalement des gens se noient. Je pense à la Manche, hein, entre Calais et l'Angleterre. On a vu apparaître maintenant ce type de voyage aussi, et aussi avec les drames que ça comporte, quoi.
Ouais, bah oui, il y en a énormément. Enfin, il y en a partout dans le monde des situations comme celle-là. Après, la Méditerranée a la particularité d'être une des voies les plus mortelles. Mais oui, tu as raison. Dans la Manche, le phénomène est en train de se mettre en place, d'apparaître, etc. De toute façon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, enfin, en tout cas, moi, ce que je peux dire après 5 ans. À faire ça, c'est que ça n'est pas une crise. On traverse pas une crise, c'est des changements qui sont systémiques, qui sont bien plus larges qu'une simple crise humanitaire, voilà, qui va s'arrêter avec on ne sait quelle décision, etc. Et que tant qu'il n'y a pas de changement politique fort, tant qu'il n'y a pas des changements d'orientation, etc. Aujourd'hui, on peut supposer que les routes vont se multiplier et s'intensifier, etc. Ça se passe dans d'autres endroits dans le monde. Déjà, rien qu'en Méditerranée, il y a aussi d'autres endroits où il y a des gens qui tentent de traverser, notamment à Gibraltar, dans la mer à l'est de l'Espagne, il y a des traversées, aussi de l'Afrique de l'Ouest vers les Canaries. Et puis à d'autres endroits aussi à Mayotte, je sais que ça se passe. Voilà, en Amérique du Sud, il y a d'autres endroits où ça arrive. Donc ouais, ça se fait, enfin, ça arrive partout dans le monde, sachant que, en tout cas, cet endroit-là, la route de la Méditerranée centrale, donc partir de la Libye pour tenter de rejoindre l'Europe, aujourd'hui, on dit que c'est la route migratoire la plus mortelle, une des plus mortelles au monde.
Alors que nous sommes en escale, nous entendons parler d'un code de conduite. Les Italiens ont le projet d'imposer aux ONG de sauvetage toute une série de règles. La manœuvre politique est évidente. Jeter l'opprobre et le doute sur la sincérité des organisations, ternir leur image en laissant penser qu'elles sont de mèche avec les trafiquants d'êtres humains, colmater la brèche dans leurs frontières. Sur le terrain, ce code entrave les opérations, notamment en interdisant les transferts de rescapés entre navires. Plus question donc pour les petits bâtiments comme le Sea-Watch 2 ou les Sea-Fox et Sea-Eye de pouvoir rester qu'un jour d'affilée dans la zone, puisqu'ils devront aller débarquer leur escapé eux-mêmes jusqu'en Sicile. Un officier de police italien pourrait être à bord des navires d'ONG. Bref, le gouvernement italien met la pression maximale sur les organisations qu'elle accuse de créer le fameux « appel d'air ». La présence de bateaux de sauvetage civil inciterait les migrants à prendre la mer. En août, le procureur de Catane, Carmelo Zuccaro, place sous séquestre le Juventa et ouvre une enquête visant 10 membres d'équipage soupçonnés de trafic d'êtres humains. L'Italie lance également une mission militaire d'appui aux Libyens afin de mieux repérer les embarcations qui fuient le pays et de former des gardes-côtes. Parmi les ONG, les avis diffèrent. Certaines signent le code de conduite en tentant de négocier des points, d'autres refusent. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elles ne font pas bloc contre ce code et que cela fragilise encore un peu plus leur position. Le bon vieux « diviser pour mieux régner » prend tout son sens. Moi, je débarque fin juin. Je suis la situation sans vraiment la suivre. J'apprends que Yann a eu un grave accident de la route. Un choc frontal avec une voiture dont la conductrice est morte sur le coup. Il doit sa survie à sa résistance physique. Il est en Corse, parti pour une longue rééducation. Son moral tient. Ma vie normale reprend. Les morts m'habitent quelque temps. Ce que nous avons récupéré avec Yann et le jeune noyé que nous n'avons pas sauvé. Je les laisse passer. Intimement, cet Africain, du même âge que moi, me fait prendre conscience de la fragilité de nos vies. Je me sens proche de lui sans l'avoir connu. Mais moi, je vis dans un monde protégé, jouissant de tous mes privilèges. Mon pays ou un autre a colonisé le sien, l'exploite encore. Lui a payé de sa vie la poursuite de ses rêves, ou bien la fuite de la misère. C'est aussi contre cette injustice que je me bats. Alors j'accepte que son âme continue à vivre un peu en moi.
Et toi alors, tu en es où alors? Tu as raccroché? Tu comptes retourner en mer?
Eh ben, je viens de débarquer. J'ai débarqué il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. J'ai reparticipé à une campagne de 2 mois là avec sur le Sea-Watch 3 et on a sauvé 360 personnes qu'on a ramenées en Sicile et qu'on a pu débarquer et voilà, la situation continue. Après, moi, je trouve ça très important de prendre du temps aussi pour soi et de pas se perdre dans ces choses-là. Et pour moi, c'est important d'avoir du contact à terre et de continuer à faire d'autres choses aussi, parce que c'est quelque chose qui est très prenant, aussi bien émotionnellement que physiquement. C'est quelque chose qui engage beaucoup et du coup moi je trouve mon équilibre aussi en faisant d'autres choses à terre et en tout cas pas à faire que ça et à vivre constamment sur des bateaux de sauvetage. Ça me paraît quelque chose de pas très sain. Donc voilà, j'essaie de trouver mon équilibre avec ça. Et puis je pense que c'est aussi un peu la raison d'avoir fait ce bouquin. C'est aussi pouvoir discuter, échanger et aussi construire politiquement sur ce sujet-là avec d'autres personnes. Et c'est ça que j'ai envie de faire.
Antonin Richard, auteur de « Ce matin, la mer est calme », journal d'un marin sauveteur en Méditerranée, aux éditions Les Étacs. Grand merci à Cédric des Étacs et à nos 2 lecteurs, Anne-Gaëlle Ponche et Jérôme Bulté. Musique d'illustration tirée de la bande originale du film de Mathilde Diop, « Atlantix ». Musique signée Fatima Al-Kadari. Une émission réalisée par Radio PFM, libre, sans pub et sans frontières, dans le cadre du Salon du Livre, d'expression populaire et de critique sociale. D'accord.
binti jeho mbal ni kuunja ni usulaiman.